prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Tactique. Ce mois-ci, nous allons discuter d'un sujet d'actualité. Est-ce qu'on est toujours en démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Et est-on en crise démocratique? Nous recevons Philippe Buton, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Reims. Il a également écrit un livre capital « Histoire du gauchisme, l'héritage de mai 68 » aux éditions Perrin. Sylviane, Cécile, Jean, Jean-Marie, Philippe, bonjour.
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 Jean, si tu veux nous présenter le thème, comment peut-on aborder la démocratie?
Donc je vais faire une intro rapide, hein, parce que c'est pas le but du jeu, que je vais lire d'ailleurs. Donc, existe-t-il une meilleure période pour s'interroger sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'elle devrait être? Donc une meilleure période qu'aujourd'hui, donc vu la crise politique qu'on est en train de vivre, donc je ne pense pas. Donc c'est pour ça donc que cette émission là donc est directement connectée à l'actualité. Alors d'une manière générale, donc on peut définir la démocratie comme ce système politique où les hommes acquièrent la possibilité de décider dans quel type d'ordre ils veulent vivre, où les hommes vivent en autonomie, c'est-à-dire que la loi est l'expression de la volonté générale du peuple, où il n'y a donc du coup ni Dieu, ni Maître, ni Jupiter, où les citoyens sont à la fois gouvernants et gouvernés, et où le gouvernement peut être exercé par n'importe qui. Donc ça, c'est les principes généraux de la démocratie, mais on voit très vite aujourd'hui donc que ces principes généraux ne sont pas de mise, qu'ils sont continuellement remis en cause et que les dérives peuvent être nombreuses. Donc c'est pour ça qu'on a donc désiré discuter de ce thème avec Philippe Buton, que tu viens de présenter, et qu'on remercie d'être là. Et donc l'entretien pourrait tourner autour de plusieurs questions. Donc de quoi la démocratie est-elle le nom? Deuxième question, donc à quoi s'oppose la démocratie, l'oligarchie, l'État autoritaire? Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des mouvements qui s'interrogent effectivement sur le glissement autoritaire de l'État, par exemple. La troisième question étant donc les différents types de démocratie représentative et sa crise, la démocratie directe, et puis donc la démocratie politique et ou la démocratie sociale. Enfin, donc, l'avant-dernier thème étant la crise de la démocratie, sous-entendu la crise de la démocratie représentative. Et le dernier thème, donc c'est une autre version de la crise de la démocratie sur les conflits de souveraineté possibles. Parce que donc c'est aujourd'hui, avec la réforme des retraites, on voit bien qu'effectivement ce conflit de légitimité donc affleure et devient crucial. Et donc, bien évidemment, à chaque fois, c'est pas un cours magistral. Hein, donc, bien évidemment, à chaque fois, on fera référence donc précisément à ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc, on peut commencer par le premier thème, donc la démocratie. De quoi est-elle le nom? Donc, démocratie. Hein, je pense que c'est tout le monde connaît effectivement la façon dont est construit ce terme-là. Donc démocratie, démos, le peuple, et kratie, le pouvoir. Mais justement, donc, le démos ou le peuple, déjà, il a plusieurs significations. Est-ce que c'est la majorité du peuple? Qu'en est-il donc du coup des minorités? Est-ce que le peuple, c'est le peuple en assemblée qui discute des lois, donc en faisant référence donc effectivement à la démocratie antique? Est-ce que c'est la communauté? Mais si c'est la communauté, celle-ci, elle est divisée entre les riches et les pauvres. Et pour le kratos, donc pour le pouvoir, celui-ci aussi, il est un peu polysémique. Ça veut dire quoi exactement, le pouvoir du peuple? Est-ce que c'est un pouvoir illimité? Est-ce que c'est un pouvoir limité? Comment peut-on le limiter? Parce que c'est pas sûr qu'un pouvoir illimité du peuple soit aussi une bonne chose. Enfin, donc voilà. Donc du coup, première question, et puis après donc on engagera la discussion donc que je vais donc poser à Monsieur Philippe Buton. Donc comment se sort-on de cette complexité? Et question subsidiaire, donc faut-il s'en sortir parce que n'est-ce pas justement ces difficultés qui font que eh bien, la démocratie, on l'interroge tout le temps, à chaque époque, à chaque moment, et que c'est cette interrogation-là qui fait vivre la démocratie.
Vaste question. D'abord, j'imagine que si vous m'avez invité, je vous remercie chaleureusement de l'avoir fait, si vous m'avez invité, c'est parce que je suis historien, et donc vous me pardonnerez d'essayer d'élargir un peu la focale. Et en même temps, vu que j'ai toujours travaillé sur pas mal de pays, de cas nationaux, je pense que c'est bien aussi de faire varier les variables géographiques. Alors, pour répondre à votre question, ce qui est marrant, c'est que vous avez défini un certain nombre de choses dans le peuple, sauf un mot que vous n'avez pas défini, c'est le peuple. C'est quoi le peuple? Parce que ce n'est pas la même chose que la communauté dans laquelle on vit. C'est-à-dire que, quel que soit le système politique que vous envisagez, il y a toujours des gens qui sont exclus de cette communauté et qui n'appartiennent pas au peuple. Et donc, il faut déjà commencer par ça. Alors, il y a un premier critère, mais sur lequel je ne pense pas que ce soit l'objet de la discussion, donc on va laisser tomber, c'est le critère de la nationalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pourtant, vivent dans une communauté, mais on considère, pour tout un tas de raisons, qu'ils n'ont pas le droit de vote, donc la démocratie ne leur bénéficie pas. Alors, il peut y avoir des discussions, etc. Mais, autrement dit, il y a des gens qui sont considérés comme n'appartenant pas encore à la communauté. C'est-à-dire quelqu'un qui est étranger, pour pouvoir appartenir à la communauté, donc pour pouvoir voter, il y a des conditions qui sont mises, plus ou moins grandes, mais il y a toujours des conditions qui sont mises. Parfois, ça peut être ses enfants, etc. Mais il y a d'autres phénomènes d'exclusion. Et ça, c'est plus intéressant dans l'histoire. C'est-à-dire que, dans l'histoire, il y a toujours des gens qui appartenaient à la communauté, qui étaient de la nationalité concernée, et qui, pourtant, n'avaient pas le droit de vote. Je ne parle pas de ceux qui ont été exclus du droit de vote, privés des droits civiques, etc. Mais ceux qui n'avaient pas les conditions réunies pour. Alors, c'est quoi? Eh bien, en Angleterre, au 19e, qui est le pays précurseur dans la conquête, dans un premier temps libérale, dans un deuxième temps démocratique, des libertés dont on parle en ce moment, en Angleterre, pendant très très longtemps, les vagabonds, les mendiants n'avaient pas le droit de vote. Parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas l'indépendance économique et psychologique. De même, pendant en France, c'est très intéressant, au début de la Révolution française, entre 1789 et 1792, les révolutionnaires, tous les révolutionnaires, sont opposés au suffrage universel, à l'époque masculin, mais la question des femmes est un débat qui n'était pas posé à ce moment-là, sauf de façon très marginale. Mais ils sont opposés au suffrage universel. Et pourquoi? Parce que dans la conception de la gauche, à ce moment-là, il y a identification entre la gauche et les... Enfin bref, je ne vais pas faire un cours d'histoire générale. Mais en gros, la gauche considère que le peuple a raison à condition qu'il soit guidé par la raison. C'est-à-dire que la gauche, au début de la Révolution française, ne considère pas que le peuple a naturellement raison. Et donc, il va y avoir, tout au long du XIXe siècle, tout un débat au sein de la gauche républicaine, puis au sein d'autres formes de gauche, pour savoir, bon, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour que le peuple puisse exercer son pouvoir. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, la définition du mot « peuple ». Mais enfin, aujourd'hui, évidemment, depuis belle durée, depuis en gros 1875, pour aller vite, on identifie suffrage universel, sans réserve, masculin, et puis ensuite, heureusement, féminin, mais très, très tardivement en France, mais enfin, c'est une autre discussion. J'espère que je n'ai pas plombé...
Ah non, du tout, je pense que c'était nécessaire, justement, de poser ce cadre-là en plus.
Ouais. Je veux dire, je reprends un exemple historique. Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Il est élu au suffrage universel président de la République et ensuite il fait un coup d'État et il devient empereur. Il n'y a qu'un problème, c'est que il va maintenir le suffrage universel masculin, il va même l'élargir un peu au regard de ce qui s'était passé à la fin de la Deuxième République, et il va régulièrement faire des plébiscites pour savoir si le peuple était consulté, enfin si le peuple était d'accord avec ce qu'il proposait, et le peuple a très 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 majoritairement voté oui, et il y a toujours eu des élections. Est-ce que l'Empire était une démocratie pour autant ? Non. Non. Parce que la démocratie ne se limite pas au vote et au pouvoir de la majorité. Et ça, c'est le deuxième point dont vous parliez, je crois. L'autorité, Kratos, est-ce que l'autorité est absolue ? Eh bien, non. Je veux dire, le régime de Poutine n'est pas une démocratie. Le régime Napoléon III n'est pas une démocratie. Et pourtant, il y a le suffrage universel, et pourtant, les gens votent. Mais l'exercice du vote dans ce type de régime, ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties libérales, l'exercice de la souveraineté populaire s'exerce pendant une seconde lorsqu'il met le bulletin de vote. Et après, c'est fini, il s'en remet un autocrate. Car en fait, la démocratie présuppose d'autres conditions. Et les conditions qu'elle suppose, c'est que le vote soit réellement libre. Autrement dit, il faut que la majorité sortante ne dispose pas de plus de pouvoir, ou pas de beaucoup plus de pouvoir, parce qu'il y en a toujours un peu, que la minorité. Et de façon plus importante, il faut que ceux qui votent comprennent, ceux qui ont le pouvoir, comprennent que la minorité d'aujourd'hui, c'est la majorité de demain. Ou c'est peut-être la majorité de demain. Et donc, il faut la respecter. Et il faut donc lui donner des pouvoirs. Il faut qu'il y ait une véritable compétition loyale dans la lutte du pouvoir. Sinon, ce n'est pas de la démocratie, c'est une apparence de démocratie. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde se réclame de la démocratie, y compris la Chine, y compris la Corée du Nord. Bon. Donc, voilà, les mots sont piégeux parfois.
Mais nous, dans ces cas-là, on n'est déjà plus en démocratie, parce que pour les dernières élections présidentielles, tous les candidats n'avaient pas voix au chapitre et tous n'ont pas eu droit à l'antenne télévision, à la télévision. Donc ça veut dire que déjà la démocratie, elle est morte chez nous, quoi.
Alors à partir de ce moment-là, là, il y a un débat où j'interviens parfois en historien, et là je parle plus en tant que citoyen. Je suis pas d'accord avec vous. C'est le charme aussi de la démocratie. Tout simplement parce qu'il faut que, pour que la démocratie s'exerce, il faut qu'elle soit organisée. C'est-à-dire que si vous considérez qu'entre deux élections présidentielles, c'était 7 ans avant, non, maintenant 5 ans, si entre deux élections présidentielles, la totalité des expressions politiques doivent être mises à égalité dans l'espace médiatique, waouh !
Non, c'est pas ça.
Ça va être compliqué. Donc, je termine. C'est pour ça que les députés ont décidé, enfin les députés, les parlementaires, ont décidé de distinguer deux temps dans la campagne. Il y a une sorte de campagne, une pré-campagne qui n'est pas une campagne, mais on est toujours en campagne dans une certaine mesure, où là, c'est d'autres règles qui s'appliquent. Et il y a la campagne officielle. Et lors de la campagne officielle, alors là, la candidate de lutte ouvrière a eu accès au même temps.
Non, il y a des candidats qui n'ont pas eu du tout voix au chapitre. Par exemple, Asselineau, par exemple, quoi, il y en a d'autres, mais lui, il a une vision, une notoriété médiatique. Ils n'ont pas été invités dans les médias. Il y a au moins 3 candidats, je crois, qui n'ont pas été invités dans les médias.
Je parle de l'organisation de l'élection présidentielle qui est comptabilisée à la seconde près, et là il y a une égalité parfaite.
Pendant la campagne,
oui, pendant la campagne officielle.
C'est alors pas là, égalitaire, c'est en fonction des résultats des élections auparavant.
Non, au moment, bon, c'est peut-être un débat technique, mais dans la dernière phase de la campagne électorale, la voix, l'expression officielle à la télévision, ça c'est l'égalité qui existe. Dans les espaces réservés à la présentation des candidats. Alors après, bien sûr, les journaux, la télé, modèrent en fonction de.
Alors, pour revenir à la question du peuple, donc on peut dire qu'effectivement, en soi, le peuple n'existe pas. Parce que certaines personnes disent en fait qu'effectivement, on ne va pas réunir 50 millions de Français sur une agora, etc. Ça semble difficile aujourd'hui, on en reparlera. Mais on peut dire aussi que peut-être qu'en fait, le peuple, il est toujours en construction, quoi. C'est une partie du peuple, de la population qui s'affirme, bon, comme aujourd'hui, sans la réforme des retraites. Et en fait, il apparaît comme comme le peuple, même si tout le monde sait que c'est pas vraiment le peuple, quoi. Ça paraît un peu insurmontable comme.
C'est totalement insurmontable. C'est totalement insurmontable. Et vous êtes pris dans une contradiction. Alors, en réalité, me semble-t-il, la réflexion doit s'organiser sur une alternative relativement simple, qui est celle de la démocratie directe, ou non.
Oui, on y reviendra.
Ou non. Mais si vous êtes pour la démocratie directe, ça, c'est des débats qui ont traversé toutes les forces politiques. Si vous êtes pour la démocratie directe, ça veut dire que philosophiquement, vous pensez que le peuple a toujours raison. Et que donc, la consultation du peuple suffit à réguler la vie politique. Ça, c'est compliqué. Alors là, en tant que citoyen, là, personnellement, c'est pas mon point de vue.
Sauf, je peux permettre, sauf s'il y a vraiment une éducation avant. C'est-à-dire, pas un vote comme ça, mais si les citoyens ont à débattre sur un sujet avec vraiment les tenants et les aboutissants avant le vote. Or, c'est pas comme ça que ça se passe.
De toute façon, il faudrait une éducation déjà
globale,
parce que quand c'était pour la première élection d'Emmanuel Macron, un journaliste demandait à une dame pourquoi elle avait voté Macron. Elle avait répondu parce qu'il est bel homme. Je crois que arrête de voter, quoi, parce que si c'est tes seuls arguments, quoi. Après, je pense qu'il faudrait une éducation déjà à la politique pour que ça ait un sens, quoi, parce que là...
Oui, mais vous comprenez bien que vous êtes pris dans une contradiction en affirmant ça, parce que ma chère grand-mère, qui est morte, je lui demandais pourquoi elle votait De Gaulle, et elle m'avait dit parce qu'il est le seul à apprendre, à connaître son discours par cœur, à ne pas lire ses notes. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout à fait original, la part de De Gaulle. C'est effectivement un critère assez surprenant. Mais alors, est-ce que j'allais lui interdire de voter ? Est-ce que votre personne qui a...
Je pense que le fait que De Gaulle récite son discours au lieu de le lire, c'est quand même plus pertinent comme critère que de savoir s'il est beau gosse ou pas, quoi.
Donc raison de plus, vous allez vraiment lui interdire de voter.
Je suis pas d'accord à un moment de... Enfin, je me suis dit, elle est libre de voter suivant ses choix, qu'il soit... Enfin, je suis personne pour décider si ses choix sont meilleurs, plus pertinents ou pas que les miens. Après, dans ce cas-là, faut qu'on devoir contrôler qui a le droit de voter. C'est compliqué, en fait.
C'est pas son choix, c'est que tu élis pas quelqu'un parce qu'il est plus beau que l'autre, quoi.
Pourquoi ? À un moment donné...
Un président de la République, tu es censé l'élire, sur le choisir par rapport à
un programme.
Au programme, oui. Un charisme, je sais pas, des choses qui sont importantes pour son poste. Mais
oui,
pas,
mais si tu n'as pas le temps, si tu ne sais pas comment juger, je suis d'accord, mais... Moi, je me sens pas. J'ai aucune légitimité pour dire à quelqu'un, je suis désolé, tu votes mal par rapport à ça. C'est pas.
Bon.
Elle vote mal, elle vote pas sur des bons critères.
On est d'accord que l'éducation est fondamentale.
Oui,
pour
oui.
permettre aux citoyens de réfléchir par eux-mêmes et de se prononcer en autonomie.
Avoir un esprit
et
critique.
De ne pas faire de la politique une affaire de spécialiste.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Justement, quand on reprend les débats qu'il y a eu lors de la naissance de la gauche, c'était précisément ce débat qui était prégnant, c'est à savoir, est-ce qu'il y a des conditions requises pour voter ? En gros, le vote n'était pas un droit, même s'il a été formulé ainsi, mais c'était aussi une fonction. Or, tout le monde n'est pas médecin. La fonction de médecin est exercée par quelqu'un. Et à cette époque-là, au tout début de la Révolution française, il y avait l'idée que cette fonction ne pouvait pas être exercée par tout le monde. Alors ensuite, vous avez une dissociation au sein de la gauche, dans les années 1830, 1840, 50, entre la gauche libérale, qui était de gauche à cette époque-là, et qui était dans l'opposition, hein, et la gauche républicaine, mais la gauche républicaine était extrêmement, extrêmement faible. La gauche libérale disait, les conditions pour voter, c'est d'avoir réussi sa vie. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable d'être indépendant économiquement, si vous êtes sous la dépendance de quelqu'un, si vous êtes incapable de travailler, etc., ben, au nom de quoi vous dirigeriez l'État ? Bon, ça, c'était la réponse libérale jusque dans les années 1860. À cela, les républicains étaient conscients que ce n'était pas possible, parce que ce n'était pas une égalité politique de dire ça. Mais comment ils réglaient le problème ? Précisément par l'éducation, en disant à terme, l'éducation va suffire. Sauf que, je vous l'ai dit, il y a eu l'expérience de Napoléon III, où là, de toute évidence, l'éducation n'a pas suffi. Alors, ils ont fait les lois Jules Ferry, tout ce qu'on veut, en 1884, etc. Enfin, 84. Mais, en réalité, la réponse des républicains, de Clémenceau, de Gambetta, de tous les autres, et puis ensuite, ça a été de dire, il faut des garde-fous. C'est-à-dire que, pour empêcher qu'on vote pour un dictateur parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il lit pas ses notes, ou parce que je sais pas quoi, on met des garde-fous qui pacifient un peu les choses, qui calment un peu les choses. D'où le fait que, historiquement, les tentatives de démocratie directe ont été mises de côté ou ont mal tourné. Hein. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas comme système, parce que d'un point de vue majoritaire, c'est apparu comme trop dangereux, trop versatile, trop soumis aux aléas, etc., etc. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense concrètement qu'on ne peut pas faire un référendum pour ou contre la peine de mort. Voilà. Je veux dire que si on avait fait ça, en 81, eh bien, il y aurait toujours la peine de mort. Et aujourd'hui, il y aurait toujours la peine de mort. Alors, soit on estime que le peuple a toujours raison, et dans ce cas-là, allons-y pour la peine de mort, allons-y pour la torture face au terrorisme, allons-y pour l'expulsion des étrangers, etc., etc. Enfin, je peux vous en faire toute une liste. Soit on estime que l'expression populaire doit être bornée. Alors après, par quoi ? Ça, c'est tout un vaste débat. Mais c'est ça, les véritables débats qui ont agité la classe politique de droite comme de gauche pendant tout le 19e et 20e siècle. Et je pense que c'est pas idiot comme question.
Et vous pensez à quoi, borner ? Borner par quoi ? Des droits de l'homme ?
Par exemple, oui. Ouais. C'est-à-dire que au-dessus de la démocratie, il y a la civilisation, pour aller très vite. Et les droits humains sont supérieurs à... Si, voilà, c'est par exemple. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. En tout cas, dans l'esprit de tous les constitutionnalistes qui ont pratiquer, ce qu'on crée les constitutions, il y avait d'autres choses.
Donc on passe au deuxième point, donc à quoi la démocratie, à quoi s'oppose la démocratie, donc on le sait plus ou moins tous, hein, donc ça s'oppose déjà à l'oligarchie, pardon, donc l'oligarchie on sait, hein, donc l'autorité d'un petit nombre, hein, archi, autorité, commandement, oios, petit nombre, sachant qu'il y a différentes oligarchies, donc la plutocratie, c'est l'oligarchie des plus riches, l'épistémocratie, ou l'épistocratie, donc ceux qui détiennent le savoir, donc pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, hein. Et puis l'aristocratie, donc pour les meilleurs et les plus méritants. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'en France, on vit donc dans une épistémocratie, c'est-à-dire donc ce qu'on disait avant, dans une technocratie où le pouvoir appartient donc effectivement aux sachants, à ceux qui savent ou à ceux qui sont supposés savoir? Et si je reprends donc la réforme des retraites, hein, puisque c'est d'actualité, le discours qui est donc qui nous est martelé donc chaque jour, c'est que il y a une nécessité à faire la réforme des retraites et que ceux qui effectivement ne conçoivent, enfin ne comprennent pas la nécessité de faire la réforme des retraites, donc sont en dehors du cercle de la raison. Et est-ce qu'on ne peut pas dire donc, deuxième question, qu'on est aussi dans une aristocratie élective? Donc, puisque dès qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui sont élus, en fait, eh ben, ils deviennent aristocrates, hein, c'est-à-dire effectivement qu'ils ont donc le pouvoir de diriger l'ensemble de la population. Donc, est-ce que l'élection en tant que telle ne produit pas ipso facto donc une aristocratie? Donc, la première question, c'était sur l'épistémocratie. En tout cas, c'est la tendance un petit peu dans les discours, effectivement, à chaque fois, on entend ça. Hein, et donc, il y a nécessité de faire. Et ceux qui ne comprennent pas la nécessité sont en dehors de la raison, ne sont pas raisonnables. À chaque fois, on entend ça.
Est-ce que oui, j'ai ça, bien c'est... compris, l'épistémocratie, ça serait la démocratie des experts.
Oui, c'est ça, les experts, les technocrates, okay. Etc.
Non, mais là... Le discours du pouvoir se justifiant comme un discours expert a été largement contredit par des personnes qui sont tout à fait, enfin, experts, j'aime pas trop le mot, mais tout à fait compétentes pour opposer des arguments à la réforme Macron des retraites, quoi.
Quand le peuple se soulève, effectivement, il remet en cause l'épistémocratie, on va dire ça comme ça. Parce qu'il trouve d'autres experts.
Sur ce plan, j'aurais une approche qui est différente. C'est-à-dire... plutôt qu'une approche philosophique tout à fait intéressante, mais qui doit, à mon avis, intervenir que dans un deuxième temps, je pense que dans un premier temps, ce qui est le principal, c'est de regarder ce qui distingue les démocraties réellement existantes, comme on disait, aux autres régimes réellement existants. Et c'est-à-dire d'avoir une analyse à l'échelle planétaire. Et là, je trouve... En tout cas, c'est mon sentiment, que quelles que soient les insuffisances, les problèmes, tout ce qu'on veut, il faudra les examiner, mais dans un deuxième temps. Mais quel que soit tout cela, la première chose qui frappe, c'est le conflit essentialiste qui existe entre les régimes qui fonctionnent de façon convenable, enfin, tels que qui s'appellent démocratie, et les autres. Ça me semble quand même l'essentiel. Je veux dire, aujourd'hui, dire quels que soient les travers, quels que soient les problèmes, tout ce que vous voulez, mais le fonctionnement d'un régime comme la France n'a pas grand, ou de l'Allemagne, n'a pas grand-chose à voir avec le régime chinois, le régime de Poutine, ou l'État islamique lorsqu'il était en place. Et il me semble que ça, c'est la contradiction principale. Après, on peut essayer de voir les dysfonctionnements, tous les problèmes qu'il y a, et améliorer encore plus. Mais commençons par l'essentiel, parce que sinon on va se tromper de discussion, je crois.
Bah, on ne peut pas remettre en cause effectivement le fait que si on compare la France, la Chine et l'URSS, enfin la Russie, pardon, effectivement il y a des pays qui sont donc démocratiques et les autres qui le sont un peu moins, sinon pas du tout.
Je trouve qu'en France, on a encore signes quand tous les médias appartiennent à une poignée de milliardaires et que dans la presse qui avant se voulait, bon, si on achetait Le Point, on avait une opinion, chez Libération, on avait un autre discours, si on achetait Le Monde, on avait encore un troisième. Maintenant, ils disent tous la même chose, quoi. Donc, pour moi, ça, déjà, c'est pas... On peut pas considérer que ce soit... Il y a plus de pluralité, pardon, d'informations. Et je pense que ça, c'est pas un signe d'une démocratie en bonne santé, en tous les cas.
Peut-être pas dans une presse écrite, mais on a encore la possibilité sur Internet d'avoir accès à des médias libres, ou relativement libres,
qui sont attaqués par des procès.
Mais bien sûr, ils sont attaqués par des procès, mais on l'a encore, alors que dans des pays comme la Chine ou la Russie, ils sont complètement... ils n'ont même plus le droit d'exister.
Mais normalement, tous les médias devraient avoir voix au chapitre, sans être attaqués, parce qu'ils ne donnent pas... annonnent pas le discours de la pensée dominante.
Oui, vous avez évidemment raison, mais historiquement, ça s'est produit quand ? À quel moment y a-t-il eu cette vision un peu paradisiaque d'une égalité parfaite dans les moyens d'expression des minorités, des majorités, etc. ?
Jamais.
Jamais. Donc, à partir de ce moment-là, puisque ça s'est jamais produit, ce qu'il faut voir, c'est les tendances. Et donc, voir si ça va dans le mauvais sens, dans le bon sens, etc., et voir ce qu'on peut faire pour améliorer, changer les choses. Mais pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, me semble-t-il. Et deuxièmement, quand on discute, est-ce que le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est nécessaire de le faire, mais comparons-le avec le seau qui existe à côté, ou la baignoire remplie qui existe à côté.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en tant que citoyenne française, moi, ce qui se passe en Chine... ça m'impacte moins que ce qui se passe dans mon pays. Quoi.
Vous avez tort, parce que je pense qu'on pouvait dire ça avant février 2022. Mais depuis 2022, le débat très théorique sur ce qu'est l'indépendance, ce qu'est la liberté, ce qu'est, etc., etc., tout un tas de choses qui nous semblaient d'une évidence. J'appartiens à une génération qui est la génération du progrès, de la prospérité, de la paix, de tout un tas de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, on essaye d'améliorer toujours les choses. Mais hélas, depuis un an, le tragique est redevenu sur le devant de l'histoire. Je veux dire, depuis un an, si, imaginons, rêvons, Trump, président des États-Unis, Marine Le Pen, présidente de la République en France, et Poutine attaque l'Ukraine. Il se passe quoi exactement là ?
Tout le monde applaudit.
En tout cas, ce qui se passe, c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas la réaction de soutien à l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine ne tient pas. Ce qui est sûr, c'est que la Pologne risque gros. Ce qui est possible, pas sûr, mais possible, c'est que Poutine ne s'arrête pas. Je veux dire, c'est aussi ça la réalité de la vie politique. On ne peut pas vivre comme si on était dans une bulle, je crois. Et je pense que lorsqu'on voit le débat entre la guerre et la paix, lorsqu'on... Je veux dire, moi, j'ai des amis russes qui sont réfugiés en France. Quand on discute avec eux comment ça fonctionne, leur régime, leur système, je vous assure qu'on voit la différence avec la France. Et je ne crois pas que la France ait des gènes spécifiques qui la vaccinent contre tout danger d'autoritarisme, de dictature, de quoi que ce soit, ni même d'invasion étrangère. Donc voilà, je crois pas qu'on puisse dire les choses, comme vous le dites, de façon aussi tranchée. Ce qui se passe en Chine ne me concerne pas. La défaite de Hong Kong, pour moi, est un drame. L'avenir de la France se passe aussi à Taïwan. Et bien sûr, en Ukraine.
Leur liberté, c'est aussi la nôtre.
Et donc, pour reprendre donc ce thème-là, y a pas mal de personnes qui pensent que, sans être un État autoritaire, il y a un glissement quand même vers l'autoritarisme de l'État français. Donc pour vous, non. Il n'y a pas de glissement, ou il y en a un quand même ?
Je vais vraiment être taxé de
libéral.
De la voix de son maître. Mais continuons. Moi, qu'est-ce que je dirais en tant que... Si j'ai un regard d'historien sur cette histoire-là. Si je prends la pratique politique française, la constitution française, comme toute constitution, elle est tiraillée entre beaucoup d'autorités et plus de, je sais pas quoi, liberté, d'autonomie, etc. Ou bref, pour aller plus vite, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et c'est évident, que la Constitution de 58 est, privilégie de façon incroyable l'exécutif, le pouvoir du pouvoir exécutif comparé aux autres. Et de fait, plein de pays dans le monde nous regardent en disant « Mais c'est quoi? C'est une monarchie présidentielle, il n'y a pas de liberté, etc. etc. » Bon, comment on fait pour juger quel point de vue on peut avoir là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette constitution qui nous régit? Eh bien, je crois qu'on doit l'analyser d'un point de vue relatif, d'une part, et d'un point de vue absolu, d'autre part. Mais il faut faire les deux. D'un point de vue relatif, ça veut dire pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la constitution de 58 est aussi contraignante pour le pouvoir législatif et aussi favorable au pouvoir exécutif? Tout simplement parce que quand ils l'ont construit, ils avaient un modèle négatif, qui était la 4e République. Alors, vous avez le droit de considérer que c'est du passé, on s'en moque, etc. Mais non, je crois pas. Il y a eu des raisons pour lesquelles la constitution de la 4e République a été condamnée. Il y avait un gouvernement tous les 6 mois, en moyenne. Il y avait une inefficacité totale. On était incapable de mettre la fin à une guerre coloniale. On était incapable de... etc. etc., etc.
Oui, bon. C'est... Moi, je voudrais insister là-dessus, quoi. Hein, c'est le principal problème auquel la 4e République se trouve confrontée, la décolonisation. Et cette constitution de la 5e République, elle accouche dans un contexte de crise politique majeure avec une tentative de putsch à Alger, quoi. Bon.
Et alors ?
Et les temps ont changé, on n'est plus dans ce contexte-là, elle a besoin d'évoluer, cette constitution.
Oui, peut-être, mais il y a des règles pour ça, oui. Effectivement, on peut la faire évoluer, elle évolue. D'ailleurs.
Pour éviter qu'un seul use de la violence institutionnelle, légale par ailleurs, que lui confère cette 5e République. Quoi. Je pense au 47-1, au vote bloqué, au 49-3...
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le point... Je veux dire, il faut tenir compte du point de vue relatif aussi. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à faire moins par moins, par moins, par moins, ça fait plus. Bon. Et donc, on doit pouvoir répondre aux raisons qui ont fait que la 5e République a été créée. On peut trouver d'autres solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas évacuer le problème. Elle existe pour une raison. Alors après, il faut la juger de façon absolue. C'est-à-dire, est-ce que dans son fonctionnement, elle a franchi la ligne jaune? Est-ce que dans son fonctionnement, en voulant à ce point privilégier le pouvoir exécutif, est-ce que c'est devenu un pouvoir autoritaire, dictatorial, totalitaire, etc., etc. Ça, c'est un débat qui est important.
C'est le débat qui a plutôt, si on suit le fil conducteur de cette émission vers la fin, on peut peut-être l'avoir maintenant, je ne sais pas, c'est un conflit entre légalité et légitimité. Quoi.
Je vais faire le provocateur, puisque c'est un peu le rôle qui m'est assigné là aujourd'hui.
Il n'était pas prévu.
Non, il n'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi encore heureux qu'on ne soit pas tous d'accord. Je vais me faire vraiment le provocateur, là. Je pense qu'un des articles les plus démocratiques de la Constitution, c'est le 49-3. Pourquoi je suis favorable au 49-3? Parce que c'est précisément un article qui empêche les marchandages. C'est quoi le 49-3? 49-3, c'est un article qui dit... Bon, on a des divergences sur... c'est normal, c'est fait pour... C'est ça, la démocratie, c'est régler pacifiquement les contradictions. Point. Bon. Donc, on a des contradictions, il y en a des multiples. Il y en a sur 300 000 sujets par jour. À un moment donné, il y a le gouvernement qui dit « Ah, ce problème-là, c'est pas un problème comme les autres. C'est pas une question où on peut mettre le curseur plus à gauche, plus à droite, faire ceci, faire cela. Non, c'est une question qui me semble... la colonne vertébrale de mon projet, ou du moins une des choses évidentes, fondamentales de mon projet, je ne peux pas lâcher là-dessus. Donc, j'engage ma responsabilité. Sauf que, le 49-3, c'est si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous faites une motion de censure. Et puis, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Vous me renversez. La preuve, c'est que la motion de censure n'est pas passée à 9 voix près. Alors, elle passe à 9 voix près, donc tout le monde dit « Ah, elle est passée qu'à 9 voix près. » Ok. Et si elle était passée qu'à 2, si elle a été acceptée à 2 voix près, vous croyez que les gens auraient dit « Ah non, elle est passée à 2 voix près, donc elle ne marche pas. » Bien sûr que non. Voilà, c'est comme ça. C'est comme Giscard a été élu 50-40, et puis Mitterrand à un autre moment, etc. Voilà. Mais je ne vois pas en quoi c'est pas démocratique. Je vois pas.
C'est un 49-3 qui intervient après avoir seulement laissé 9 jours de débat à l'Assemblée nationale pour discuter de cette réforme. Ce qui a contraint certains à faire dans le grand guignolesque aussi. Ouais.
Mais oui, mais 9 jours de débat sabotés par des parlementaires.
Et c'est un 49-3 qui intervient dans un déni de démocratie sociale avec l'article 1er de la Constitution qui dit que la France est une démocratie... alors je ne sais plus exactement...
laïque, démocratique et sociale.
Et voilà, et sociale à la fin, quoi.
Merci. Je trouve que dans cette constitution, il n'y a pas du tout d'égalité entre les trois pouvoirs.
C'est tout à fait vrai.
Le pouvoir judiciaire, il est malmené par les différents gouvernements. Le pouvoir législatif, ben là, de toute façon, avec le 49-3, il n'a plus rien à faire.
Ah, ça, c'est pas vrai. Ça,
ah non, il discute avant, mais même s'il est, c'est tronqué, je veux dire...
Il y a la motion de censure.
Oui,
il y a la motion de censure, mais bon...
Qui a été adoptée une seule fois dans toute l'histoire, mais c'est pas de...
Oui.
Je veux dire, Michel Rocard l'a utilisé 30 fois, que oui, je sache, Michel Rocard n'est pas un dictateur.
Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est comme...
Pour le pouvoir
judiciaire... Pour moi, ça ne me paraît vraiment pas des pouvoirs à égalité.
Ah ben, vous avez tout à fait raison. C'est précisément la norme de la Ve République, c'est de faire la prééminence du pouvoir exécutif. Mais ça, c'est certain. La question est, est-ce que cette prééminence du pouvoir exécutif veut dire dictature ? C'est ça le débat. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be all right. All right. All right. Pour moi, moi non, parce que il y a des possibilités de, il y a des élections régulières, il y a possibilité de renverser le gouvernement, il y a tout un tas de.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que le gouvernement gouverne dans le sens du bien pour le peuple.
Certes, mais qui décide quel est le bien pour le peuple ?
Bah, quand on a des gens, quoi, tout le monde dans la rue, quoi, je veux dire, le peuple, on voit bien qu'il souffre. Quoi. La France d'en bas, les sans-dents, je suis désolée, on voit bien quand même qu'ils ne sont pas à la fête depuis des années.
Mais vous connaissez une période où le peuple a été à la fête ?
Bah, non, mais... c'est pas parce que... Non, mais alors,
le 14 juillet.
Oui, voilà.
Mais c'est une donnée.
Mais
c'est
non, mais ça, ce n'est pas un argument, parce que je veux dire, il y aurait économiquement... Il y a largement de quoi nourrir tout le monde tranquillement. Quoi, je veux dire, si chacun était, tous les métiers étaient payés à leur juste valeur, la France d'en bas, elle demande pas à gagner des milliards. Elle demande juste à pouvoir vivre tranquillement de son salaire, de pas être obligé de survivre d'un mois pour quoi, d'un mois sur l'autre, et sans pouvoir se payer de loisirs, sans pouvoir, je veux dire, pendant que des milliardaires s'enrichissent et savent plus quoi faire de leur argent, quoi. Je pense qu'il y a une façon de gouverner qui permettrait ça, et tout le monde serait content, quoi. C'est...
Mais... Peut-être pas les plus riches.
Bah attends, oui, c'est vrai qu'une fois que t'es à la tête...
Tout le monde ne serait pas
une
content.
Une fois que t'es en haut du classement de Forbes, t'as plus envie de redescendre, mais bon, je pense que...
Et c'est la raison pour laquelle il y a des élections, que puis-je vous dire. L'autre débat devient pourquoi la majorité du peuple pour ne vote pas comme vous le souhaitez. Voilà, c'est un autre débat. Mais si la majorité du peuple...
Non, non, alors la majorité... Non, parce que Macron, il n'est pas élu par la majorité du peuple. Quand on regarde les résultats, il a été élu par
20%.
38% des inscrits.
Ah, mais alors, qui, la majorité du peuple a voté pour qui, alors ? Si c'est pas Macron,
abstenu.
C'est qui ?
Bah, les vainqueurs, c'est l'abstention. Donc,
d'accord, mais vous faites comment pour demander aux abstentionnistes de diriger la France ?
C'est le problème.
Bon, alors si on met de côté les fantômes...
Dans ces cas-là, il faut mettre l'obligation de vote,
par exemple.
Si on veut des résultats. Si mais il faut tenir aussi compte des votes blancs. Et,
tout ça est très, tout à fait intéressant, mais pratiquement, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir concrètement ce que vous proposez.
Ben, je propose déjà que le vote blanc compte.
Ça veut dire quoi ?
Et que quand
ça veut dire quoi que le vote blanc compte concrètement ?
Ben, ça veut dire qu'on compte les voix. Ben, par exemple, ils comptent pas dans les résultats. Les 2 233 904 votes blancs du deuxième tour de l'élection présidentielle, ils n'ont pas été comptés.
Et vous voulez les compter comment ?
Ça
veut dire quoi les compter ?
La question, Cécile, c'est tu en fais quoi de ça ?
Voilà.
Eh ben, ils comptent dans les résultats, donc du coup, tu n'as plus, ils n'ont plus 58% et 41%. Il faut les compter par rapport au nombre d'inscrits.
D'accord, mais ça change quoi ?
Ben, ça change que l'élection, elle est illégitime.
Parce
que du coup, il faut revoter, il faut virer ceux-là et mettre d'autres personnes à la place pour avoir une vraie majorité.
D'accord, mais on met qui à la place ?
Ah ben ça, on trouve,
pourquoi,
quoi, je veux dire.
Et pourquoi, si vous mettez à la place de Macron, je sais pas quoi, Manuel Valls, si vous mettez à la place de Mélenchon, Manuel Bompard, si vous mettez à la place de Le Pen, sa nièce, ça change quoi au problème que vous évoquez, de la présence des votes blancs ou de l'abstention ?
Il faut des gens pour qui les gens, la majorité, veut voter.
D'accord, mais vous répondez pas à la question. Et qu'est-ce qui se passe-t-il s'il n'y a pas la majorité ? Ce qui est évidemment le cas. Et évidemment, vous n'allez pas trouver un individu aujourd'hui en France qui va recueillir les 75% des électeurs, et même plus de
50%. Oui, mais là, ça ne ressemble plus à rien, quoi.
Ben, d'accord, mais que proposer ? Je veux dire, on peut soit se dire, ben voilà, ça ne ressemble plus à rien, et puis on va se coucher, soit on essaye de gouverner. Et quelle est l'alternative ? Je ne vois pas.
Ah bah oui, mais c'est pas parce qu'il faut la trouver, l'alternative. Et je ne vais pas la prendre là en 2 minutes et demie, mais... C'est vrai qu'il faut... quoi, pour moi, les élus, ils n'ont pas de légitimité.
Ils ont plus de légitimité que tout autre. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un déficit de légitimité, mais je ne vois pas quelle légitimité supérieure vous pouvez opposer. Je ne vois pas. Parce que, précisément, le législateur a envisagé le cas de figure dont vous parlez. et il a inventé la notion de majorité relative. Alors, évidemment, c'est pas parfait, la majorité relative. Mais si on considère que tout ça a au moins un avantage, c'est de fonctionner.
Oui, mais là, par exemple, les dernières, il y a eu une sur la circonscription 2, il y a eu une législative partielle. Il y a eu 20% de votants au premier tour et 22% au deuxième. Mm-hmm. Quelle est la légitimité de la personne élue ?
Très faible, mais elle existe.
Faible, mais elle a été élue.
Très faible, mais elle existe. Mais, ouais. Sinon, on ne met pas de députés. Mais alors, on va mettre la barre où ? Et puis, on n'aura plus de députés. Mais si on... Ok, admettons, on n'a plus de députés, mais qui
non,
va
mais
décider
c'est à refonder le système, ou alors on met...
On va faire une constitution.
Alors, en fait, oui, en fait c'était là, c'est le thème qui suit. C'était donc l'opposition entre démocratie représentative et démocratie directe. Donc, démocratie représentative, hein, tout le monde sait ce que c'est. Donc, on vote effectivement une fois tous les 5 ans en France. Les mandats ne sont pas impératifs. Les élus ne sont pas révocables. Et bon, enfin, à mon sens, hein, ça crée quand même une sorte de d'oligarchie quand même assez... donc, une oligarchie, puis une dépolitisation possible de l'ensemble de la population par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et puis l'autre, donc, c'est la démocratie directe, hein, c'est-à-dire donc une démocratie donc, dans laquelle les citoyens exercent effectivement directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. Alors, bien évidemment... Donc, dans des nations à plusieurs millions d'habitants et une douzaine de millions d'habitants, on voit mal comment une démocratie directe peut se faire. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, d'après vous, donc, si on pense au RIC, si on pense au référendum d'initiative populaire, etc., ou même aux conventions citoyennes, est-ce que ça pourrait pas quand même, effectivement... revivifier cette démocratie représentative qui, bon, aujourd'hui, quand même, on le voit, hein, trouve quand même très vite ses limites, quoi. Surtout quand on a donc une idéologie de ce type-là où on veut imposer des lois selon parce que, dit-on, elles sont nécessaires ou parce que l'économie les commande, etc. Donc, il y a quand même des possibilités, effectivement, de revivifier cette démocratie représentative. D'après vous ?
Bien sûr. Maintenant, faut pas se tromper. Parce que c'est à manier avec beaucoup de précautions. Quand, historiquement, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, les tentatives de démocratie directe se sont toujours mal terminées, historiquement. Donc, la solution qui avait recueilli l'assentiment de quasiment tout le monde, c'était la démocratie représentative, qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui n'était pas remise en cause. Et pendant très 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 longtemps, il n'y a pas eu de demande de représentation de démocratie directe, ou alors venant plutôt du courant de droite. Et celui qui a le plus modifié le fonctionnement dans le sens d'une démocratie directe, c'est De Gaulle, en 1962, en instituant le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, extrêmement populaire d'ailleurs comme réforme. Or, la gauche était totalement opposée à ce type de réforme, puisque ça fleurait le césarisme, ça fleurait Napoléon III ou Napoléon Ier. Bon.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que là. lorsqu'on a peur de les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et elle n'a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.